VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du mercredi 15 février 2017. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson. Nous commençons avec les titres.
En Côte d'Ivoire, remise en liberté des 6 journalistes incarcérés depuis dimanche à Abidjan.
En République démocratique du Congo, on fait état de 8 blessés graves et de dégâts matériels importants après les affrontements de mardi à Kinshasa entre la police et les adeptes de la secte politico-religieuse Bundudia Mayala.
Burundi, le facilitateur tanzanien a invité le pouvoir et l'opposition à une réunion de 3 jours à partir de jeudi à Arusha.
Ici à Washington, poursuite de la controverse sur les contacts entre la Russie et le camp électoral Trump après la démission du conseiller présidentiel pour la sécurité nationale.
La paix entre Israël et les Palestiniens ne passe pas nécessairement par une solution des deux États. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable de la Maison-Blanche mardi à la veille de la rencontre Trump-Netanyahou.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal.
En Côte d'Ivoire, remise en liberté hier, des 6 journalistes interpellés et incarcérés depuis dimanche à Abidjan. Ils restent sous le coup d'une inculpation pour divulgation de fausses nouvelles, Jacques Aristide.
Les patrons de presse Savamara Koulibaly, Yacouba Bané et Franck Bamba Mamadou ont été inculpés d'atteinte à la sûreté de l'État, à l'incitation des militaires, à l'insoumission et à la rébellion, d'après le syndicat de la presse privée de Côte d'Ivoire. Ces inculpations concernent également leurs collaborateurs Hamadou Ziao, Jean-Bédel Niago et Ferdinand Bailly. Ils ont donc été relâchés hier, mais doivent rester à la disposition de la justice. Plusieurs associations de journalistes avaient protesté contre ces arrestations, déplorant une atteinte flagrante à la liberté de la presse. L'Association de la presse étrangère en Côte d'Ivoire salue la mise en liberté provisoire des confrères, mais demeure préoccupée par les conditions d'exercice du métier de journaliste et demande l'abandon pur et simple des poursuites. Les 6 hommes ont été inculpés pour leur couverture de la récente mutinerie à Adiaké des forces spéciales, une unité chargée de la sécurité rapprochée du président. Président Alassane Ouattara, c'était le dernier épisode d'une série de mouvements d'humeur de soldats ivoiriens pour réclamer des primes.
À Kinshasa, et selon un bilan officiel provisoire, les affrontements de mardi entre la police et les adeptes de la secte politico-religieuse Bundudia Mayala ont fait 8 blessés graves et causé d'importants dégâts matériels. Le député national Nemwanda Nsemi, recherché par la justice pour troubles à l'ordre public au Congo central, sa province d'origine, et appel à la xénophobie, s'est retranché chez lui avec quelques-uns de ses adeptes. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
8 personnes ont été grièvement blessées, 22 autres interpellées, 5 armes saisies. Voilà le bilan partiel communiqué mardi soir par le porte-parole de la police nationale congolaise suite aux affrontements entre les adeptes de Bundudia Mayala, du député national Nemwanda Nsemi et la police. Des échauffourées qui ont démarré le 13 février dernier vers 15h dans la commune de Ngiringiri, faisant 2 morts selon le bourgmestre de la commune, joint par Top Congo FM. Nemwanda Nsemi qui s'est retranché chez lui alors qu'il est recherché par la justice congolaise pour troubles au Congo central, selon le porte-parole du gouvernement Lambert Mende Omalanga. Notez que de nombreuses réactions ont été enregistrées suite à ces échauffourées en pleine capitale. La CAJ, Association Congolaise pour l'accès à la justice, sollicite notamment l'ouverture d'une enquête indépendante de la communauté internationale sur le dossier du député national Nemwanda Nsemi ainsi que celui de Kamuna Nsapu dans l'espace Kasaï, accusant l'armée d'avoir utilisé des moyens disproportionnés face à des gens qui n'étaient munis que d'armes blanches selon Georges Kapiamba. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Burundi, nouvelle tentative de règlement du conflit. Le facilitateur tanzanien a invité le pouvoir et l'opposition à une réunion de 3 jours à partir de jeudi à Arusha. Des détails avec Eric Manirakiza.
Selon un diplomate africain cité par l'AFP sous anonymat, ce nouveau round devrait se pencher pour la première fois sur des questions de fond. Il s'agit du 3e mandat controversé du président Pierre Nkurunziza ou la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Le médiateur Benjamin Mkapa a dressé une liste de 33 participants, dont le gouvernement et ses alliés, des grandes figures du CNARED, plateforme regroupant la quasi-totalité de l'opposition burundaise intérieure et en exil, ont été également invités, ainsi que d'anciens leaders du parti au pouvoir qui ont fui le pays après s'être opposés au troisième mandat. Toutes les tentatives de mettre à la même table le pouvoir burundais et l'opposition en exil ont jusqu'à présent échoué. La tâche s'annonce encore une fois très compliquée. La présidence burundaise n'entend pas discuter avec le CNARED, dont certains membres sont recherchés par la justice de Bujumbura. De son côté, le CNARED, qui a récusé l'ancien président tanzanien comme facilitateur, a annoncé qu'il ne participerait pas à cette session.
Un rapport confidentiel de l'ONU avertit que la guerre au Soudan du Sud a atteint des proportions catastrophiques pour les civils et que l'emprise des milices risque de devenir incontrôlable et d'alimenter les combats pour de nombreuses années. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, écrit dans ce rapport, obtenu mardi par l'AFP, que les civils fuient villes et villages en nombre record et que le risque d'atrocité de masse est réel. La situation sécuritaire continue de se détériorer dans certaines régions du pays et l'impact de ce conflit et des violences atteint des proportions catastrophiques pour les civils, s'inquiète le chef de l'ONU.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Maison-Blanche affirme que le président Donald Trump a été informé le 26 janvier dernier du fait que son conseiller pour la sécurité nationale, Michael Flynn, avait induit en erreur le vice-président Mike Pence quant à ses contacts pré-investiture controversés avec l'ambassadeur russe à Washington. Jean-Roger Bion.
Selon le porte-parole Sean Spicer, le président et ses proches collaborateurs ont examiné et évalué quotidiennement pendant quelques semaines ces informations avant que Flynn n'ait été forcé à démissionner lundi. Le vice-président avait dit publiquement sur la base des assurances de Michael Flynn que ce dernier n'avait pas discuté des sanctions du président Barack Obama contre la Russie. Ces sanctions avaient été prises à cause du rôle de Moscou dans la crise ukrainienne et aussi en raison des allégations d'ingérence de Vladimir Poutine dans la présidentielle de novembre dernier, notamment le piratage du camp de Hillary Clinton, la rivale démocrate de Donald Trump. Répondant aux questions des journalistes sur les 18 jours que cela a pris, entre le 26 janvier et le départ de Michael Flynn, le porte-parole Spicer a déclaré « Le président en est arrivé à la conclusion qu'il n'avait plus confiance en M. Flynn en tant que conseiller pour la sécurité nationale ». Le président a ajouté « Sean Spicer n'a rien vu de répréhensible ou d'illégal dans les conversations entre Michael Flynn et l'ambassadeur russe, même si M. Flynn était encore un citoyen privé ». Donald Trump a lui-même tweeté que le véritable problème, c'était les fuites au sein du gouvernement américain. À noter que d'influents parlementaires démocrates ont demandé une plus vaste enquête sur les liens entre la Russie et d'autres proches collaborateurs de M. Trump, au-delà des conclusions des services de renseignement l'année dernière sur l'ingérence russe dans la présidentielle américaine de 2016.
Un haut responsable de la Maison-Blanche a déclaré hier que la paix entre Israël et les Palestiniens ne passe pas nécessairement par une solution des deux États et que cette décision incombe aux deux parties concernées. Dans un briefing aux reporters à la veille de la visite du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ce mercredi à Washington, le même officiel a précisé « Nous ne dicterons pas les termes de ce que sera la paix ».
Selon cet officiel, une solution à deux États qui n'apporte pas la paix est un objectif que personne ne cherche à atteindre. La paix est l'objectif, que cela soit sous la forme d'une solution à deux États, si c'est ce que les partis veulent, ou quelque chose d'autre, si les partis le veulent, a-t-il encore dit. La solution des deux États, vivant côte à côte en paix et en sécurité, a été la position officielle des États-Unis. Et nous reviendrons sur cette visite du Premier ministre israélien à Washington en seconde partie de cette édition.
Le meurtre du demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en disgrâce démontre la brutalité et la nature inhumaine du régime de Pyongyang. C'est ce qu'a estimé aujourd'hui la Corée du Sud au lendemain de l'annonce de ce mystérieux assassinat en Malaisie. Kim Jong-nam, fils aîné du défunt Kim Jong-il, a vraisemblablement été empoisonné lundi par deux femmes à l'aéroport de Kuala Lumpur avec une méthode qui rappelait celle de la guerre froide. Selon certains médias, cet homme de 45 ans a été touché par des aiguilles empoisonnées. D'autres évoquent un liquide aspergé au visage de la victime.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Morgane Guériec.
En Côte d'Ivoire, des petits investisseurs prévoient de manifester samedi à Abidjan. D'après Jeune Afrique, près de 37 000 personnes auraient souscrit à des investissements dans des sociétés agroalimentaires. Problème, les autorités ivoiriennes soupçonnent une partie d'avoir organisé une vaste escroquerie. Vers un Internet moins cher au Sénégal. La Sonatel s'est engagée à revoir ses prix à la baisse d'ici à 2020. D'après Jeune Afrique, l'opérateur veut faire baisser le prix du gigaoctet mobile à 2500 francs CFA au lieu des 3500 francs CFA actuels. Sachez enfin que l'Afrique australe est mobilisée contre une invasion de chenilles légionnaires. Le parasite fait des ravages dans les cultures céréalières et fait déjà poindre la menace de pénurie alimentaire. L'ONU exhorte les pays menacés à coordonner leurs efforts.
À présent, les sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Feu d'artificier en Europe avec la reprise de la Ligue des Champions.
Le Parc des Princes en folie, 4-0. La facture salée des Parisiens contre des Barcelonais complètement éteints hier dans la capitale française. Di Maria par deux fois, Drexler et Cavani ont permis au Paris Saint-Germain de prendre une sérieuse option pour la qualification en quart de finale. Le match retour s'annonce compliqué au Camp Nou face à un Barça qui voudra prendre sa revanche. Une statistique, Idrissa, le Paris Saint-Germain a théoriquement 100% de chances de se qualifier, puisque depuis 1970, sur 169 équipes qui ont gagné 4-0 à l'aller à domicile en Coupe d'Europe, eh bien 169 se sont qualifiées. Les Messi, Suarez et Neymar vont sans doute vouloir faire mentir cette statistique.
Défaite en revanche pour le Borussia Dortmund.
Avec un immense gardien et un brin de réussite, Benfica a battu 1-0 Dortmund lors de ce huitième de finale aller. Aubameyang a même raté un pénalty.
À suivre ce soir, Real Madrid-Naples avec le retour de Ronaldo.
Le Real Madrid, champion d'Europe en titre, s'attend à souffrir ce mercredi face au jeu offensif de Naples. C'est ce qu'a déclaré hier en conférence de presse l'entraîneur madrilène Zinedine Zidane, qui a appelé ses joueurs à se battre et à rester concentrés. Pour l'occasion, Cristiano Ronaldo devrait tenir sa place dans le groupe madrilène puisqu'il a travaillé normalement. On se souvient qu'il avait été absent de l'entraînement lundi. En revanche, absence de Gareth Bale, encore convalescent et non convoqué.
Et Bayern Munich-Arsenal, c'est aussi mercredi.
Le Bayern de Munich et Arsenal se sont rencontrés 5 fois en Ligue des Champions au XXIe siècle. En phase de poule ou en huitième de finale, eh bien les londoniens n'ont jamais pris l'avantage sur l'ensemble des deux matchs. À 3 reprises déjà en 2005, 2013 et 2014, Munich a éliminé Arsenal en 8e de finale. Affaire à suivre. Enfin, Idrissa, je vous laisse donner quelques résultats de NBA, le championnat de basket nord-américain.
Toronto a succombé face à Chicago, 94-105, et Cleveland a battu Minnesota, 116-108.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Washington Forum ce jeudi, on revient sur le décret anti-immigration, le bras de fer entre Donald Trump et la justice fédérale, un texte contesté puis bloqué par un juge de l'État de Washington, mais qui génère encore de la confusion. Qui vise-t-il? Quels sont les recours possibles? Donald Trump qui fait appel, peut-il passer en force? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mousseau et ses invités.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la question du rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi n'est toujours pas réglée, deux semaines après le décès de l'opposant historique à Bruxelles. Gino Reima de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa, a recueilli ses réactions d'habitants de la capitale congolaise.
Les avis des Kinois sont partagés autour du rapatriement du corps d'Étienne Tshisekedi. Un jeune propose que le préalable du parti soit pris en compte avant d'honorer celui qu'il appelle un héros.
Pour l'arrivée du corps du président, le gouvernement doit d'abord préciser là où on doit enterrer notre président. Parce que je ne serais pas d'accord si le gouvernement proposait Gombe, Nécropole. Nous ne serons pas d'accord parce que c'est un homme qui a beaucoup travaillé sur le Congo. Il faut au moins que le gouvernement puisse choisir l'endroit où on doit construire le mausolée pour notre président. Deuxièmement, au niveau d'une nomination du premier ministre. L'opposition a proposé que le fils du président soit nommé en tant que premier ministre.
Un autre Kinois pense que les deux familles, c'est-à-dire politico-biologique et le gouvernement, devaient dialoguer et arriver à présenter un programme des obsèques du président Tshisekedi.
C'est à eux de trouver une solution. Il faut un dialogue entre les deux parties. Comme ça, s'ils tombent d'accord, ils rapatrient le corps et ils vont le mettre là où ils vont décider, toutes les deux parties. Comme son fils a dit qu'il va venir. Attendons qu'il arrive. Comme ça, il y a aussi des gens qui sont derrière, qui vont essayer de le voir pour lui faire comprendre qu'on ne doit pas marchander le retour de son papa. Le peuple est fatigué. Bon, on comprend que c'est une grande icône, une grande figure de la démocratie, mais le point que ça prend aussi, on trimballe le corps d'une haute personnalité comme ça, c'est pas bien. Il faut qu'on trouve une solution rapide.
Pour un troisième Kinois qui considère Étienne Tshisekedi comme une icône, la décision finale devrait revenir au gouvernement pour la suite des obsèques.
C'est eux qui ont des décisions à nous donner. Nous, on est la population. On n'a rien à faire pour cette affaire. Vraiment, ce qu'on demande dans notre État, dans notre gouvernement, de prendre des décisions rentables et qui va nous rassurer, nous, la population, pour être sûr que non, un jour, on va assister aux obsèques de notre défunt.
14 jours sont passés depuis la disparition du président du Conseil de sages du Rassemblement, Étienne Tshisekedi, décédé le 1er février à Bruxelles.
Gino Reima de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
VOA Afrique, 24/24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Au Burundi, la vie devient de plus en plus difficile dans beaucoup de localités du pays, où pratiquement tous les prix des denrées alimentaires de base ont augmenté. Notre correspondant Christophe Nkurunziza a recueilli dans la province de Gitega, dans le centre du Burundi, les témoignages suivants dans ce reportage.
Quand l'on se dirige vers le centre-ville de Gitega, dans le quartier de Magarama, à une centaine de kilomètres de Bujumbura, la capitale, un petit marché intéresse des habitants à la recherche de denrées alimentaires qui, depuis la fin de l'année 2016, ont connu une hausse significative des prix. Légumes, tomates, haricots, riz, quelques denrées consommées au Burundi ne sont plus à la portée du portefeuille du citoyen ordinaire. Agglutinés dans ce modeste quartier composé essentiellement de Burundais d'origine musulmane, de nombreux habitants de cette ancienne capitale administrative sous la période monarchique burundaise reconnaissent que les temps ont changé. Cette femme, mère de 7 enfants, indique que s'approvisionner devient un casse-tête quotidien.
Tout est cher et il n'y a pas de liquidité. Je n'ai rien à dire, ça me dépasse. Les aubergines n'ont pas de prix. On les vend à moins cher pour avoir des clients, mais il n'y a pas de preneurs à cause de la pauvreté. Je vends à 100 francs, c'est vraiment dur. Le riz, on n'en parle pas, car le prix au kilo est de 2500 francs burundais, un prix pas abordable pour les Burundais moyens.
Ce petit marché qui se situe non loin de l'ancien palais monarchique de Gitega est prisé par la plupart des citoyens dans son centre du Burundi, où le tambour est roi. Cette autre femme, sourire aux lèvres, estime que les prix ont augmenté exponentiellement.
Ces derniers temps, le prix du riz variait entre 1000 et 1500 selon la qualité. Les feuilles de manioc, on les vend à 100 francs le paquet. Dans notre famille de 8 personnes, y compris mon mari et moi, le haricot 1000, mais qualité jaune 1500. Nous donnons 4800 francs burundais pour acheter 2 kilos de riz et 1600 francs pour le haricot pour une seule nuit. Je loue une maison de 100 000 francs burundais. Je crois que prochainement, je vais retourner à l'enclos familial. Et là aussi, je ne suis pas sûr qu'il y aura de la place.
La pomme de terre est aussi un aliment consommé par la plupart de Burundais moyens. S'il est vrai que les conditions atmosphériques n'ont pas épargné certaines plantes dans bien de localités du Burundi, cette maman de quatre enfants reconnaît que les prix ont grimpé véritablement.
La pomme de terre varie entre 600 et 700 le kilo. Le prix augmente car on ne trouve pas facilement la pomme de terre. On vend 700, mais on a acheté pour 660 ou 70. De même, la pomme de terre de 600 le kilo, on l'achète à 560 ou 70 francs. Les prix de la pomme de terre augmentent sans cesse.
Quasiment tous les acheteurs et vendeurs affirment que les prix ont véritablement augmenté depuis la Saint-Sylvestre 2016. Cette autre dame, la quarantaine, tente une explication de cette hausse des prix des denrées alimentaires.
Les routes vers ou en provenance des pays étrangers ont été souvent fermées. D'habitude, on mangeait de la pâte de manioc en provenance de l'Ouganda et du riz de la Tanzanie. Mais aujourd'hui, c'est impossible de les trouver. Et on n'a pas de bienfaiteurs pour nous épauler. Il nous est difficile de manger à notre faim et de vivre dignement.
Dans la plaine de Limbo et sur les hauteurs de Bujumbura, la situation est presque identique. Les autorités burundaises affirment que le phénomène El Niño, qui a frappé le Burundi et d'autres pays limitrophes, est une des causes de ce manque de denrées alimentaires, car la production n'a pas été satisfaisante. Si vous ajoutez à cela les sanctions prises par l'Union européenne dans certains domaines de la vie économique du Burundi, il est vrai que la situation des Burundais moyens qui vivent de l'agriculture et de l'élevage n'est pas aisée ces derniers mois. Christophe Kourounziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
En République centrafricaine, le centre du pays est toujours en proie à de violents combats. Le FPRC et l'UPC, deux factions de l'ancienne coalition Seleka, s'affrontent dans plusieurs localités du pays. À Bangui, les réactions sont hostiles à ces mouvements armés. Reportage de Freeman Sipila.
De violents combats opposent les deux groupes armés, et cela depuis octobre 2016. Les localités les plus touchées sont les préfectures de la Haute-Coteau et de la Ouaka au centre et au centre-est du pays. Chaque mouvement justifie sa position à leur qualité sous chef d'état-major du FPRC.
C'est une mission que la population nous a donnée de chasser Ali Darassa, qui a transformé la zone de la Ouaka à une zone infernale.
L'UPC est dirigé par Ali Darassa, un chef de guerre d'origine nigérienne et constitué en majorité des combattants peuls. Son porte-parole, Souleymane Daoud, explique l'engagement de leurs hommes au front.
Ils veulent se positionner par rapport à quoi? Alors qu'il y a un processus en cours, nous on est pleinement dans le processus. On a des revendications qu'on a adressées au gouvernement légitime, on a adressées à la communauté internationale. On est en train de suivre toutes nos revendications afin que la paix puisse revenir. Et eux, ils ne veulent pas suivre ce chemin, ils veulent partager le pays. C'est pour cela que nous refusons catégoriquement leur politique.
Pour empêcher l'élargissement des combats à Bombari, capitale de la Ouaka, centre des opérations de l'UPC, la MINUSCA a tracé des lignes rouges. Le samedi 11 février, le chef d'état-major du FPRC, le général Joseph Zoundeko, a été tué dans une frappe aérienne de la force onusienne alors que ses troupes ont franchi une de ses lignes. Le FPRC accuse les casques bleus de partialité, ce que dément le commandant de force, le général Bala Keïta.
On ne connaît ni les gens du FPRC, on ne connaît ni les gens de l'UPC. Ils ne nous intéressent pas en tant que groupe armé. La seule relation qu'on a avec eux, c'est de leur dire, chers frères, nous sommes venus ici pour vous aider à vous parler, à vous retrouver.
Chaque faction se réclame d'un mouvement nationaliste, position rejetée à Bangui. Albert Mbaya, journaliste et directeur du journal L'Agora, parle d'un non-sens.
Ça ne veut rien dire. Au-delà des concepts qui sont englobés dans ces noms de partis, c'est pas de mouvement politico-militaire qu'on fabrique, il y a certainement d'autres raisons cachées qui motive cette violence dont nos compatriotes sont des victimes aujourd'hui. Aujourd'hui, la RCA, c'est le ventre mou de la sous-région, et tous les bandits du continent africain pensent que c'est là qu'il faut venir s'enrichir. La preuve, Ali Darras est le patron de l'or. Nous avons des informations selon lesquelles ce bonhomme se tape 30 kg d'or par mois.
Selon l'ONU, ces affrontements ont déjà fait plusieurs dizaines de morts et occasionné le déplacement de plus de 20 000 personnes. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Ici à Washington, quand le président Donald Trump accueillera le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ce mercredi à la Maison-Blanche, plusieurs thèmes d'actualité seront au programme des discussions. Mais il y a trois points qui ne sauraient échapper à M. Trump et Netanyahou. L'Iran, la question palestinienne et la crise en Syrie. Ce sera la première rencontre entre les deux dirigeants depuis l'élection de M. Trump à la présidence des États-Unis. Et les premières indications de part et d'autre laissent prévoir un tête-à-tête entre deux solides alliés soucieux d'éviter toute confrontation. C'est l'opinion du journaliste Scott Bob qui a longtemps couvert l'actualité israélienne.
Les deux se sont rencontrés en septembre quand M. Trump était candidat et ils s'entendaient très bien. Depuis son élection en novembre, M. Trump a un peu modéré ses positions. Alors peut-être ça inquiète un peu les Israéliens, mais aussi ils veulent quand même renforcer les relations. M. Netanyahou, en parlant avec ses ministres la veille de son départ, a dit qu'il ne faut surtout pas faire une confrontation avec M. Trump. Ils veulent plutôt essayer de collaborer. Et il a dit à la presse avant de partir lundi soir que l'alliance entre les États-Unis et Israël est forte et elle va se renforcer avec sa visite. Donc je crois que le but, c'est vraiment de trouver des points communs et de parler des différences, mais de se comprendre de mieux en mieux.
Mais Donald Trump et son entourage n'ont-ils pas toujours manifesté un appui sans réserve pour Israël et surtout pour le Premier ministre Netanyahou?
Exactement, et ça a un peu fâché les conservateurs, les faucons au sein du gouvernement de M. Netanyahou, et son gouvernement est un gouvernement très conservateur. Il a besoin de ces gens. Alors, ce sera un pas difficile pour Netanyahou de les satisfaire, de ne pas enrager sa droite en restant amis, plus amis encore avec M. Trump.
Au risque de nous répéter, Scott Bob, qu'est-ce qui doit être fait pour que cette visite soit un succès pour les Israéliens?
Je crois qu'ils vont se pencher sur ce qu'ils sont d'accord. Et un, c'est l'Iran. Tous les deux sont d'accord qu'il faut serrer l'Iran plus. Peut-être qu'il y aura une annonce d'encore de sanctions économiques sur Téhéran. Pour les Palestiniens, M. Trump a déjà dit qu'il aimerait redémarrer le processus de la paix qui est un peu moribonde depuis plusieurs années. Et pour ça, M. Trump a déjà dit il n'y a pas longtemps que les colonies, la construction dans les colonies n'aiderait pas le processus de paix. Alors peut-être là, on va voir moins de choses.
L'appui ouvert de la Maison-Blanche, est-ce une bonne chose pour la solution à deux États?
Pas selon les Palestiniens et le monde arabe. D'ailleurs, même M. Obama se faisait critiquer en disant qu'il était trop ami d'Israël. Donc, ça a toujours été un problème.
Autre enjeu pour cette rencontre, le dossier syrien?
Oui, d'abord, tous les deux hommes sont très concernés par les renforcements de l'Iran et surtout en Syrie. On va voir, mais M. Trump n'a pas l'intention, à mon avis, de s'ingérer plus militairement, disons, avec des soldats en Syrie. Déjà, il y a des forces spéciales. Je crois qu'ils vont laisser les Israéliens peut-être travailler un peu plus et peut-être il y aura des meilleurs échanges, disons, dans l'intelligence, les informations entre les deux gouvernements.
Vous êtes conseiller de Donald Trump. Quelle est l'erreur à ne pas commettre pendant cette visite?
Bonne question. Monsieur Netanyahou, quand il se sent menacé, il réagit violemment. C'est passé avec Monsieur Obama. Et alors, si j'étais Monsieur Trump, j'éviterais une confrontation au moins publique.
Il faut ajouter qu'un haut responsable de la Maison-Blanche a déclaré hier que la paix entre Israël et les Palestiniens ne passe pas nécessairement par une solution des deux États. Je vous rappelle que c'était Scott Bob qui répondait aux questions de Gabi Dorsil. Scott Bob est un ancien correspondant de La Voix de l'Amérique basé à Jérusalem et il est actuellement directeur du service francophone de La Voix de l'Amérique.
Washington Forum ce jeudi, on revient sur le décret anti-immigration, le bras de fer entre Donald Trump et la justice fédérale, un texte contesté puis bloqué par un juge de l'État de Washington, mais qui génère encore de la confusion. Qui vise-t-il? Quels sont les recours possibles? Donald Trump qui fait appel, peut-il passer en force? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mousseau et ses invités.
Le monde aujourd'hui. aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.